vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. La perte de mémoire est l'un des premiers signes apparents de la maladie d'Alzheimer. Si ce n'est pas le seul, c'est celui qu'on associe le plus à la pathologie et qui nous préoccupe. Seulement voilà, perdre ses clés, ne plus se souvenir de son code ou encore du nom de cette personne qu'on a rencontrée il y a 2 jours en promenant notre chien, ces oublis, on en fait tous l'expérience. Mais alors sont-ils bénins? Sont-ils vraiment plus fréquents quand on prend de l'âge? À partir de quand et dans quel contexte faut-il s'en inquiéter? Et pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Emmanuel Cogna, neurologue au Centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal et membre du Conseil scientifique de France Alzheimer. Bonjour docteur Cogna.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation.
Alors, on a souvent des types d'oubli. Je ne sais plus où j'ai posé les clés ou encore je ne me souviens pas du nom de tel acteur. Ça nous est tous arrivé. Et on dit souvent de manière assez familière qu'on a des trous de mémoire. Mais alors, est-ce que ça arrive vraiment à tout le monde et de quoi s'agit-il réellement?
Alors oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde. La difficulté, c'est qu'on n'a pas une mémoire. On a plein de mémoires différentes et ces différentes mémoires fonctionnent avec des processus qui sont pas exactement similaires, pas exactement avec les mêmes régions du cerveau qui sont impliquées. Et il y a dans ce que nous on entend par mémoire plusieurs étapes. En réalité, on peut avoir un trou de mémoire parce qu'on n'arrive pas à retrouver un souvenir qui en quelque sorte pourrait être mal rangé dans notre cerveau. Ou bien on peut avoir un trou de mémoire parce que, eh bien, on n'a jamais rangé ce souvenir. On l'a oublié ailleurs, c'est le cas de le dire, hein, et il ne se trouve pas ni dans notre bibliothèque ni dans notre cuisine. Donc, eh bien, on ne le trouvera jamais. Donc, trou de mémoire, c'est l'expérience vécue, mais ça recouvre énormément de choses différentes.
Et alors, donc, il y a différents types de mémoire, court terme, long terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement? On va reprendre l'exemple des clés ou que j'ai pu oublier. Je les ai posées. Je sais que je les ai posées en rentrant chez moi, mais je ne sais plus où. Ça, c'est quel type de mémoire, du coup?
Alors, c'est pas une question si facile parce que ça peut être plusieurs types de mémoire qui sont touchés. Mais ce qu'on va dire, c'est que il y a plein de modèles, vous savez, pour expliquer comment fonctionne notre cerveau, on fait des modèles, et ces modèles, on essaie de les vérifier, mais bien sûr, notre cerveau, il n'est pas fait sous la forme d'un diagramme, hein, donc c'est toujours des images et des simplifications. Il y a plein de modèles, et ces modèles, effectivement, les modèles qui prédominent, les plus simples, les plus accessibles pour la mémoire, divisent la mémoire avec 2 grandes étapes. La mémoire à court terme, celle de la minute qui suit, et la mémoire à plus long terme, tout ce qui est plus long qu'une minute, et 3 étapes. Dans la mémoire à long terme, on divisera entre la mémoire implicite, les souvenirs qu'on n'a pas besoin de rappeler, ils nous reviennent tout seuls, on ne s'en rend même pas compte finalement que c'est de la mémoire. Faire du vélo, par exemple, du patin à glace, on ne se pose pas la question de savoir comment on va pédaler, on monte sur le vélo et c'est parti. Et la mémoire explicite, c'est-à-dire des souvenirs qu'on a besoin de retrouver, qu'il faut faire un effort pour ramener à la conscience. Et enfin, cette dernière étape, parmi cette mémoire explicite, eh bien, on en distingue 2 types. La mémoire épisodique, la mémoire des faits dans leur contexte, souvent les faits les plus banals comme le repas de la veille, le menu de la veille. C'est un souvenir dans le contexte, puisque chaque personne qui écoute peut en faire l'expérience. Quand on essaie de se souvenir de ce qu'on a mangé hier soir, eh bien, en même temps, on arrive à tirer sur des fils pour voir avec qui on était, l'heure qu'il était, si c'était bon, pas bon. Et on peut même remonter le fil de sa journée à partir de ce souvenir-là.
On va remettre dans le contexte.
Exactement. Et à l'opposé, on a la mémoire dite sémantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les connaissances. Je prends toujours cet exemple, hein, la date de la prise de la Bastille, eh bien, vous la connaissez, mais vous ne savez absolument pas, justement, il n'y a pas de fil, vous ne savez pas qui vous l'a apprise, dans quel contexte. Si on reprend votre question, où est-ce qu'on a posé les clés? Eh bien, a priori, ça rentre dans la catégorie, en suivant le cheminement, du souvenir épisodique, donc de cette mémoire dans le contexte. Et là, eh bien, on revient à mon préambule, c'est-à-dire que on peut ne pas se souvenir où on a posé les clés, soit parce qu'on n'a jamais enregistré où on a posé les clés, soit parce que le souvenir a été formé dans notre cerveau, mais soit pas de manière très forte, soit sans qu'il soit bien classé. Et à ce moment-là, quand on veut aller le chercher, eh bien, c'est difficile. Et ce seront, bien sûr, différentes situations, pathologiques ou non, qui causeront cette difficulté à retrouver ses clés selon que, eh bien, en fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on ne les retrouvera jamais, ces clés. Ou alors, au contraire, selon que, on tombera peut-être dessus, ou 10 minutes plus tard, on se souviendra, et quand on tombera dessus, ça nous rappellera ce qui s'est passé, et le souvenir, on se rendra bien compte qu'il était là, mais qu'il était seulement temporairement égaré.
Je vais reprendre aussi quelques questions qu'on nous a posées. Est-ce que c'est du coup le même phénomène ? Est-ce que ce sont les mêmes explications quand, par exemple, on arrive dans une pièce, on sait qu'on est venu chercher quelque chose dans cette pièce, mais on ne sait plus quoi ? Est-ce que c'est la même mécanique ou c'est encore quelque chose de différent ?
Alors, c'est un petit peu différent. C'est la mémoire à court terme. Là, très clairement, c'est la mémoire à court terme. On décide de faire quelque chose. On a notre petit espace mental dans lequel on a mis l'idée de cette action. Et en fait, pour... spontanément, c'est naturel, eh bien, les choses fuient de cet espace mental parce qu'il est un petit peu réduit, donc on ne peut pas en mettre un très grand nombre. Et il faut essayer de les maintenir, et on a besoin pour ça, entre autres, de sa concentration et de différentes autres fonctions cognitives. Concentration, c'est le terme courant, nous on dira plutôt attention dans le jargon neurologique. Et si cette attention est fragilisée, et ça, c'est vraiment le grand mal de notre époque, comme on dit, hein, avec tous les perturbateurs attentionnels, comme le téléphone portable, avec la fatigue, le stress, et ainsi de suite, eh bien, le souvenir fuira plus rapidement, et le temps qu'on passe dans la pièce suivante, on aura pensé à autre chose, et le souvenir sera oublié. Mais souvent, il ne sera pas complètement oublié, parce qu'il suffira de revenir à son point de départ, et là, il reviendra dans ce cas-là.
Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous.
Et qu'on considère comme globalement banal, majoritairement banal. En tout cas, c'est toujours, il faut être précis, pas tellement évocateur des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie à Cordelévy ou les autres maladies neurocognitives.
D'accord.
Plutôt, soit vraiment à des phénomènes banals comme le stress, soit éventuellement à des pathologies authentiques comme la dépression, l'anxiété envahissante, mais qui ne sont pas du domaine des maladies neurodégénératives.
Et par exemple, on parle de plus en plus de la charge mentale. Est-ce que ça aussi, c'est un élément qui pourrait expliquer ce type d'oubli ?
Bien sûr, même si c'est
un facteur, en tout cas.
Mentale, je suis pas très au fait de comment c'est théorisé d'un point de vue vraiment médical, mais en tout cas ce qu'on entend dans le langage courant par charge mentale, effectivement, c'est entre guillemets des pensées qui sont un peu envahissantes et qui vont réduire ou en tout cas occuper en quelque sorte un peu notre espace mémoire et nos capacités de fonctionnement cognitif.
Et alors, quel type de mémoire peuvent être liées à la maladie d'Alzheimer, en tout cas au premier stade de la maladie ?
Alors classiquement, c'est ce que j'ai décrit comme étant la mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs récents, ce matin, hier, la semaine dernière, dans leur contexte. Et paradoxalement, pas nécessairement des choses qui sont importantes, signifiantes. J'ai parlé du menu de la veille, c'est vraiment un exemple très, très caractéristique. Les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer vont pouvoir oublier des choses relativement anodines au départ qu'ils ont faites récemment, la dernière fois qu'ils ont reçu leurs petits-enfants, ou le fait que un colis a été livré, ils ne se souviennent plus qu'il a été livré, ils l'attendent toujours par exemple. Ce sont vraiment ces petits événements du quotidien qui répondent à cette caractéristique que si on s'en souvient normalement, on peut, si un colis a été livré, ben on peut se souvenir si c'était une dame ou un monsieur qui l'a livré, quelle heure il était et quel jour c'était. Donc, c'est ce type de souvenir, et paradoxalement, et c'est souvent quelque chose qui est mis en avant par les proches, voire par les patients eux-mêmes, la mémoire sémantique, elle, les connaissances, est très bien préservée, voire même, parfois, on a l'impression qu'elle est exacerbée. La phrase classique, quand un patient qui s'avère avoir une maladie d'Alzheimer entre dans le bureau de consultation avec son accompagnant, c'est « Docteur, c'est terrible, il ne sait pas où il met ses pantoufles, mais il est capable de nous raconter très en détail des événements de sa vie qui se sont passés dans son enfance et qu'il ne nous avait jamais raconté jusque-là. C'est vraiment très impressionnant à quel point il est capable de nous refaire vivre ces événements. » Donc, c'est un peu caricatural, mais ça illustre cette disproportion qu'il y a entre l'atteinte de cette mémoire épisodique, de ces petits souvenirs récents dans leur contexte, et de ces connaissances, la mémoire sémantique, des choses très anciennes qui ont été cristallisées dans notre mémoire.
Et alors, quels sont les signes qui devraient nous alerter finalement quand ça nous arrive ou quand ça arrive à un proche? Vous avez donné un exemple avec peut-être une personne un peu âgée. On peut se dire que c'est normal, que les fonctions ralentissent quand on prend de l'âge, mais finalement pas forcément. Donc à partir de quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Est-ce que c'est le type d'oubli, du coup, a priori un peu? Est-ce que c'est leur répétition? Est-ce que c'est la réaction des personnes face à leurs propres oublis?
Alors, d'abord, il faut faire un préambule qui est indispensable. Malheureusement, ou heureusement, selon la position dans laquelle on se place, il n'y a aucun symptôme qui soit typique de la maladie d'Alzheimer ou des autres maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que il n'y a aucun symptôme qui permette de dire « c'est sûr, cette personne a la maladie d'Alzheimer » ou qui disent « non, ça c'est sûr, ça n'est pas lié à la maladie d'Alzheimer ». C'est la raison pour laquelle il faut faire un bilan spécialisé et qu'on a de plus en plus recours aux biomarqueurs pour aider à un diagnostic très précis. Maintenant, on peut se donner des éléments d'orientation, des oublis qui ont cette forte coloration attentionnelle. Je ne sais pas ce que je voulais faire quand je change de pièce, ou je voulais dire quelque chose et je ne sais plus quoi. Ça, c'est le plus souvent banal. En tout cas, quand ça n'est pas extrêmement fréquent, extrêmement récurrent et que ça n'interfère pas avec les activités de la vie quotidienne. À l'inverse, des oublis d'événements vécus, même anodins, mais dont il est incapable de réveiller la moindre trace, c'est-à-dire même en donnant des indices, en remettant dans le contexte, ça c'est quelque chose qui va être un peu plus inquiétant, surtout si ça se répète dans le temps et si parfois ça touche des événements qui devraient être signifiants, par exemple émotionnellement, je parlais tout à l'heure du fait d'avoir reçu ses petits-enfants. Ça c'est un premier aspect sur les caractéristiques de la plainte. Le deuxième aspect, c'est les symptômes qui vont accompagner les oublis. Si ces oublis sont très isolés, souvent, soit on sera à un stade extrêmement débutant de la maladie, soit on ne sera pas face à une maladie neurodégénérative. Si par contre on a même de manière très légère des symptômes associés comme des difficultés pour s'orienter, alors qu'avant on avait un bon sens de l'orientation, on est plus en difficulté, on n'ose plus trop aller dans des quartiers qu'on ne connaît pas bien parce qu'on a peur de se perdre, ou même on s'est déjà perdu une fois ou deux dans le métro ou dans les transports en commun, ça c'est quelque chose qui va interpeller. Un autre élément, c'est lorsqu'on a un problème avec les mots et plutôt les noms communs. Le fait de ne pas se souvenir du nom d'un acteur, d'un film qu'on a vu récemment, dans la majorité des cas, pas tous, mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui n'orientera pas tellement vers une maladie neurodégénérative. Mais si par contre, on oublie, et je parle aussi fréquemment, on a tous des ratés au quotidien, et il ne faut surtout pas tomber dans le travers de les relever tous, parce que sinon, on développe une grande inquiétude. Mais si on se met à ne plus savoir se retrouver le nom d'une fourchette ou d'un stylo et que ça se répète de jour en jour, ça sera aussi un élément d'alerte puisque la maladie d'Alzheimer, c'est un processus qui va être diffus à l'échelle du cerveau. Il y a des régions du cerveau qui sont touchées de manière plus particulière, surtout au stade précoce, dans les formes classiques, mais le cerveau va être touché de manière diffuse. C'est la raison pour laquelle il y a souvent des symptômes associés. La dernière chose, c'est de qui vient la plainte ? Ce n'est pas toujours le cas, surtout au stade précoce. Les patients qui ont la maladie d'Alzheimer ont une plainte le plus souvent, mais avec l'évolution de la maladie, et parfois chez des personnes dès le début de la maladie, il y a un phénomène qu'on appelle la nosognosie, qui commence à être connu et qui doit l'être, qui est le fait que la maladie donne un symptôme très particulier, qui est la difficulté à se rendre compte de ses propres symptômes. Et donc ça crée une disproportion entre la plainte du patient, qui est souvent, dans la maladie d'Alzheimer, encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais qui est souvent minimisée, banalisée, rationalisée, et la plainte de l'entourage, qui, elle, est plus importante avec une discordance entre les deux. L'entourage va venir et dire « quand même, il a oublié plusieurs fois une chose qu'on devait faire, il s'est trompé dans un rendez-vous », et le patient va dire « oui, mais bon, je vois bien avec les gens autour de moi, ça arrive, j'ai des copains qui me disent la même chose, ça ne doit pas être grand-chose ». Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, va interpeller.
C'est parce que le patient minimise ce qui lui arrive ou c'est vraiment parce qu'il ne s'en rend pas compte, qu'il n'en a pas conscience ?
Cette nosognosie, c'est un symptôme bizarre, mais elle est a priori distincte du déni. Ce n'est pas que le patient ne veut pas qu'on se rende compte. Après, c'est difficile, rien n'est noir ou blanc en médecine. Bien sûr. Mais c'est authentiquement une difficulté pour le patient à prendre conscience de ses propres symptômes. ce qu'on pourrait apparenter à un mécanisme un peu protecteur, puisque le patient, du coup, lui, il se sent pas si mal, mais ça crée des problèmes. Déjà, ça retarde souvent la consultation. Et ça crée des tensions, voire des conflits entre le patient et les personnes qui vivent avec lui, puisque le patient, lui, va minimiser, j'allais dire, en toute bonne foi. Lui, bon, il se passe pas grand-chose pour lui, ou il a oublié ses oublis, alors que les proches, eux, sont un peu plus alarmés. Néanmoins, il n'est pas rare que les patients ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème dans la vie quotidienne, parce qu'ils ne perçoivent pas les symptômes, mais ils perçoivent les conséquences de leurs symptômes, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus exactement comme ils vivaient, et ça, c'est source de beaucoup de mal-être, et c'est parmi les nombreuses raisons, l'une des raisons pour lesquelles la dépression, l'anxiété sont plus importantes chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple.
Alors, la maladie d'Alzheimer est surtout associée à un déclin de la mémoire, d'où nos questionnements sur les types d'oubli, mais ce n'est pas le seul symptôme possible. Quels sont les autres signes précurseurs auxquels on peut prêter attention ?
Alors, on peut en trouver plein. La maladie d'Alzheimer, on en distingue plusieurs formes qui sont en fait des présentations un peu caricaturale de la maladie. Et comme toujours en médecine, entre ces formes, eh bien, il y a un dégradé qui va relier toutes ces formes-là. Les trois grandes formes de maladie d'Alzheimer, c'est la forme mnésique, qui est de très très loin la prédominante, et à ce moment-là, eh bien, on aura ce trouble de la mémoire épisodique, avec souvent des petits éléments au niveau de la parole et de l'orientation spatiale, c'est vraiment un élément très important. La deuxième, c'est la forme langagière, où les personnes pourront avoir peu, voire pas de troubles de mémoire, mais par contre des grandes difficultés d'élocution, ce que l'on appelle dans notre jargon un manque du mot. Les patients auront tout à fait connaissance de ce qu'est un verre, de ce qu'est un ordinateur, mais ils auront toutes les peines du monde à retrouver le mot et à s'exprimer, si bien qu'avec l'évolution de la maladie, l'expression orale devient vraiment très difficile. Ça, c'est une deuxième forme. Et la troisième forme, plus rare, c'est la forme qu'on dit postérieure, où ce sont les troubles neurovisuels qui vont prédominer. C'est-à-dire les troubles qui concernent l'interprétation des signaux visuels qui sont envoyés par nos yeux. On voit avec notre rétine, plutôt on perçoit les images avec notre rétine, et ces images sont envoyées sous la forme de signaux sur les régions postérieures de notre cerveau, ce qu'on appelle le lobe occipital, ici à l'arrière. Et là, elles subissent un traitement pour faire de signaux qui sont totalement abstraits, des images, des objets, des concepts. Hein, il faut traiter tout ça pour qu'à la fin, on ait perçu quelque chose. Et ce sont ces régions-là du cerveau qui sont touchées. Donc les personnes vont avoir des troubles qui sont assez difficiles à appréhender parce que ce n'est pas une cécité au sens voir bien ou être aveugle ou être myope. C'est vraiment une perception modifiée, désadaptée de ce que l'on voit. Donc les personnes, par exemple, peuvent se trouver avec une synotagnosie. Elles ne peuvent plus voir l'espace comme un tout, mais elles vont voir les objets de manière individuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles voient un objet, elles sont incapables de dire si cet objet est à côté d'un autre objet ou pas, puisque leur regard va errer, va tomber sur un autre objet, et cet autre objet, eh ben, il sera à un endroit, et le premier objet n'existera plus pour elle, par exemple. C'est un exemple pour essayer de matérialiser ce que ce sont ces troubles neurovisuels qui sont très très difficiles à appréhender. Et donc ça, c'est une troisième forme de maladie d'Alzheimer. On en décrit une quatrième, qui est la forme frontale, où les troubles du comportement vont pouvoir prédominer, mais finalement, on va pouvoir trouver, selon les patients, un petit échantillon de l'ensemble de ces symptômes, avec, dans la majorité des cas, encore une fois, les troubles de la mémoire qui sont au premier plan.
Alors, la réponse est peut-être difficile à apporter, vous allez me dire, mais ce sont des symptômes qui peuvent arriver à un stade précoce de la maladie ou au contraire à un stade avancé ?
Alors, en fait, l'installation des symptômes est graduelle et selon la forme de la maladie, c'est-à-dire en réalité tout simplement la région du cerveau qui est touchée de manière prédominante, les symptômes vont apparaître graduellement, de manière plus ou moins simultanée, et on peut parfois expérimenter des symptômes du type de la simultagnosie que je vous ai donné, bien sûr pas de manière très sévère, mais dès les stades précoces, par exemple, c'est des personnes qui auront du mal à trouver les objets devant elles. Elles sont à table et elles cherchent le sel qui est juste devant elles, et elles ne le trouvent pas. Sachant que, pour bien clarifier, ces symptômes neurovisuels, ils correspondent à une forme particulière de la maladie d'Alzheimer, mais ils sont très au premier plan dans une autre maladie neurodégénérative qui est la maladie à corps de Lévy, où là, c'est un peu le maître symptôme, c'est l'un des symptômes cardinaux.
Le meilleur moyen de savoir reste encore de consulter. Le diagnostic d'ailleurs de la maladie d'Alzheimer, vous l'avez dit en début d'émission, nécessite un bilan complet des capacités cognitives de la personne. Il n'y a pas un test rapide qui existe. Donc, lorsqu'on a un doute, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on vous a écouté et qu'on a tout compris et qu'on a encore un doute ?
La première chose qu'on fait, c'est qu'on en parle à son médecin traitant, tout simplement, qui va écouter la plainte. Les médecins traitants sont tout à fait formés pour essayer de l'apprécier. Et qui, si il ou elle pense que ça nécessite des explorations, va réaliser le bilan de débrouillage de la situation, qui va comprendre une IRM du cerveau et une prise de sang. Et probablement, s'il arrive à trouver le temps, quelques petits tests qu'il fera faire au cabinet ou sur un terminal mobile. Et à la lueur de ces éléments-là, le médecin traitant, s'il pense qu'il pourrait y avoir une maladie neurodégénérative, ou pas nécessairement une maladie neurodégénérative, mais en tout cas une cause qui nécessite un bilan et des soins spécialisés, eh bien, il adressera le patient en consultation mémoire. Il y en a un peu plus de 450 en France, qui sont des centres de proximité dans lesquels exercent des gériatres, des neurologues, éventuellement des psychiatres qui sont formés et qui vont pouvoir prendre en charge les personnes pour faire le bilan, pour arriver eh bien, à un diagnostic ou à se rassurer.
Eh bien, merci beaucoup, Dr Cogna, d'avoir partagé ce moment avec nous en studio.
Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de partager et d'aider à comprendre, parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour appréhender cette maladie qui est très déroutante et dure pour beaucoup de personnes.
Ben merci vraiment pour vos explications, c'était très clair et je pense que ça en a aidé beaucoup. Et merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que cet épisode aura pu vous aider dans une meilleure compréhension de la maladie. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à nous écrire et à écouter nos émissions sur radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.